One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Spiritualista.
Bonjour ou bonsoir, c'est moi, c'est Amel, et je suis ravie de vous retrouver pour ce 44e épisode de Spiritualista. Spiritualista, c'est ton podcast initiatique. Ici, on parle de spiritualité, d'éveil de conscience, d'expansion de conscience, d'expérience extrasensorielle. On aborde aussi ce genre de moments de déclic qui changent à tout jamais ta trajectoire de vie. Je suis hyper contente de pouvoir partager au travers de ce podcast les pensées qui me traversent, les punchlines qui m'inspirent, hein, qui me laissent en état de méditation pendant de longues minutes, voire de nombreuses heures. Je suis aussi super contente du lien qu'on est en train de tisser ensemble. Depuis quelques semaines, j'ai décidé de partager sur une nouvelle plateforme, sur une nouvelle application, sur TikTok. Et c'est assez amusant parce que là où sur Instagram, finalement, la communauté avec laquelle j'échange et je partage connaît ma vibe, sur TikTok, je débarque sur un territoire neuf. Et j'avoue que c'est assez challengeant, mais j'aime beaucoup parce que du coup, les gens me posent des questions pour le moins différentes des interrogations que les personnes qui ont l'habitude de tous ces thèmes-là me posent sur Instagram. Donc c'est assez inédit, c'est assez intéressant. Sur Instagram, les gens qui sont abonnés à mon compte me connaissent via le podcast. Donc du coup, disons que les présentations ont été faites. Alors que sur TikTok, boum, je débarque avec mes partages, ma vision. Et ça crée un petit peu... C'est comme si c'était un choc, pas un choc des cultures, mais un choc des dimensions. Mais c'est super amusant et je prends ça avec beaucoup, beaucoup de légèreté. J'essaye de répondre aux commentaires qui peuvent parfois être des commentaires... de hater, hein, on va pas se mentir, avec amusement, avec légèreté. J'ai l'impression d'apprendre une sorte de kung-fu, de la réponse juste, avec de l'humour, de la légèreté, là où certains apportent beaucoup, beaucoup de densité. C'est-à-dire que là, le choc des dimensions, on le ressent, mais genre hyper, hyper puissamment. C'est un truc de ouf, surtout un TikTok, une vidéo que j'ai partagée sur... le patriarcat dans les religions, où j'explique très brièvement, hein, la vidéo, je sais pas, elle fait peut-être 20 secondes, que j'ai jamais compris pourquoi dans les institutions religieuses, c'était un prêtre, un imam, un rabbin, en fait que l'intermédiaire entre une femme et son lien au divin, c'est tout le temps un homme, et donc j'explique que c'est bien aussi de se réapproprier son lien direct avec le divin, parce que finalement, on a tous la fibre, hein, qui est installée entre notre cœur et la conscience absolue. Il suffit juste d'en avoir conscience, de le savoir. Hein. C'est comme tout, notre regard, notre œil, n'a la capacité de voir uniquement ce dont on a conscience. Si tu as conscience qu'on vit dans un monde où il y a des synchronicités, où la magie est partout, où les miracles sont omniprésents, oui, tu vas expérimenter une vie d'abondance, de synchronicité, de signaux qui te sont envoyés. tu vas expérimenter des miracles, mais littéralement, tu vas en vivre, tu vas toi-même en initier, tu vas en recevoir. Donc c'est comme tout, hein, c'est comme tout dans la vie. Je me rappelle, j'avais lu quelque part que peu importe ton système de croyance, l'univers va te le valider. Si tu es persuadé que le monde dans lequel on vit est un monde de danger et que ta peur est totalement justifiée, eh bien l'univers va confirmer ta croyance. Si tu es persuadé que tout est cool, qu'on vit dans un jeu, dans une sorte de simulation où tu incarnes qu'un avatar et tu peux à la fois être l'avatar et à la fois être la vibration de Dieu, c'est-à-dire être aux commandes, être le joueur et le programmateur du jeu, eh bien, l'univers va te confirmer cette vision-là. Donc, peu importe ce que tu crois, tu vas l'expérimenter. Donc, autant choisir son système de croyance. Autant se dire, ah, est-ce que la disquette qui a été préinstallée dans mon hardware, dans mon disque dur, est proactive pour moi ? Ou est-ce qu'elle l'a été un temps et à présent elle me limite? Ou est-ce que j'ai envie d'explorer une autre disquette? Eh bien, c'est intéressant, voilà, de se poser ces questions-là à plein de moments de sa vie et de se dire, ah là, ben, j'aimerais bien changer. J'aimerais bien changer d'avatar, j'aimerais bien changer de décor. J'aimerais bien modifier les personnages qui étaient des personnages principaux dans ma simulation, dans mon expérience du réel. Et découvrir autre chose. Et je me suis rendu compte que finalement, être jeune, c'est constamment vivre de nouvelles expériences, rencontrer de nouvelles personnes, lier son âme à d'autres âmes, découvrir, faire vivre à nos cinq sens des choses qui n'ont jamais été explorées et exploitées. Et je me suis rendu compte, c'est un peu comme dans une map, dans un jeu vidéo, à chaque fois que tu fais vivre à ton âme de nouvelles choses, tu débloques de nouveaux territoires et ces nouveaux territoires te permettent des expansions de conscience, te permettent d'explorer des champs qui étaient jusqu'alors inexplorés, inexploités. Et à chaque fois que, boum, tu ouvres une nouvelle expérience, c'est comme si tu créais un réseau, un système racinaire, de nouvelles connexions entre tes neurones et tu crées aussi de nouvelles connexions cosmiques. D'ailleurs, il y a beaucoup, j'ai pas creusé, mais j'ai vu une étude récente qui prouve que finalement la construction de notre cerveau, avec tout le système cognitif, énergétique, qui est finalement un système électrique pur en fait, de connexion entre les neurones, c'est des impulsions électriques qui passent d'un neurone à l'autre, c'est similaire finalement au réseau cosmique, le réseau informationnel planétaire, où finalement chaque planète a sa conscience pure et envoie des informations, des vibrations aux uns et aux autres. Et ça me fait penser à un bouquin aussi que j'avais trouvé quand j'habitais à Boulogne. En fait, il y avait un coin, il y avait un meuble vers les boîtes aux lettres au rez-de-chaussée, et c'était le coin à cadeaux. Donc quand les gens avaient des livres, des choses à donner... je me rappelle l'été par exemple, il y avait un des voisins qui avait une résidence secondaire avec un arbre fruitier, avec un cerisier qui donnait énormément de cerises. Et donc l'été, on avait droit à un énorme, à chaque fois qu'il allait dans sa maison de campagne, on avait droit à un panier avec plein de cerises et un petit mot, servez-vous. Et bref, je vous parle de ça parce que vraiment l'immeuble dans lequel j'habitais, c'était une copropriété avec trois immeubles. Les gens étaient animés d'une lumière, d'une générosité, d'une abondance assez rare en fait. Donc là j'y repense, je repense aux meubles à cadeaux et ça me renvoie vers des moments de surprise où là tu descends ou tu reviens du travail et tu vois ce meuble d'abondance disponible pour toi. Et c'était à chaque fois un truc qui enivrait mon cœur de bonheur. Bref, un jour je trouve un livre autour de l'astrologie. C'était comment lier, comment avoir une alimentation juste selon son signe astrologique. Bon, j'étais intriguée, donc je l'ai pris. Bon, je l'ai rapidement lu en diagonale parce que ça se lisait très très vite. Et à un moment donné, j'ai aimé parce qu'au démarrage du livre, ils expliquaient très clairement comment finalement on reçoit cette imprégnation cosmique, la vibration de toutes les planètes en fait au moment de notre naissance. Et l'auteur expliquait que c'est un petit peu comme si on arrivait, on naissait dans le monde matériel, hein, dans le monde de troisième dimension. C'est comme si on arrivait, on quittait un bocal, le bocal du liquide amniotique, voilà, du ventre de notre mère, qui finalement nous isolait du monde extérieur. Et au moment de notre naissance, on vivait une imprégnation dans un champ électromagnétique qui est nourri d'une certaine information. Et hop, boum, dès qu'on est, on est imprégné par cette information, on est encodé par ces informations-là, qui finalement vont donner des influences à notre destinée. On n'est pas emprisonné dans ces informations-là, mais en tout cas, elles donnent une trame, une première harmonie cosmotellurique à notre âme. Voilà, on est encodé par ce champ électromagnétique. Et j'ai beaucoup aimé parce que finalement, ça a apporté plein de clarté à des notions que j'avais. Et là, pour le coup, c'était clairement expliqué et je l'ai bien entendu. C'est un peu comme... parfois, la vie nous donne une pièce du puzzle qui nous manque et clac, on sent quand la pièce du puzzle est parfaite et s'emboîte complètement dans un champ de compréhension du monde qu'on a. Et là, ça apporte voilà, la pièce finale et on se dit « Ok, je comprends mieux maintenant. » Et je pense que c'est surtout, ça ravive une mémoire qu'on a en nous parce que clairement, on arrive là sur Terre, on a tous eu des vies et des vies et des éons d'incarnation. Notre âme a enregistré beaucoup de mémoires, beaucoup de connaissances. Je pense qu'on sait déjà énormément de choses et qu'on est juste là pour se souvenir, pour se rappeler de qui on est et de toute la haute potentialité, tous les talents, tous les dons qui sommeillent en nous. Et on est juste là pour les réveiller, en fait. Et ça me fait penser à la phrase... que m'avait dit un des invités du dîner de médium, je crois que c'est l'épisode 3 du podcast, ou le 2... Bon, c'est un des premiers épisodes, le dîner avec les médiums, où Fred m'avait dit « Le dormeur doit se réveiller ». Et souvent, j'entends cette phrase, elle résonne encore beaucoup en moi, « Le dormeur doit se réveiller ». Et c'est comme si on doit tous finalement sortir d'un certain état d'hypnose, une hypnose qui est personnelle, qui est collective. On doit se réveiller. Et d'ailleurs, j'ai compris que quand on va voir un hypnotiseur, c'est ouf. Mais en fait, il ne nous met pas en état d'hypnose. Il nous sort par strate, par palier de notre état d'hypnose. L'état d'hypnose dans lequel on est plongé depuis... depuis qu'on a, je pense, 6-7 ans. Je pense qu'avant cet âge, on est encore très conscient. On va dire que nos mémoires sont beaucoup plus actives et présentes et le voile de l'oubli n'est pas encore installé, en fait. On ne nous a pas encore verrouillés de notre champ inconscient. J'ai l'impression que s'il y a beaucoup de porosité entre le conscient et l'inconscient et nos mémoires encodées de base. Et ensuite, à partir de 7 ans, ça y est. On rentre dans la programmation, dans l'éducation et on a plein de programmes limitants. C'est la prison sans barreaux qui est finalement une prison du mental parce qu'on se coupe de la voix du cœur, du ressenti, de nos émotions pures, de notre imprégnation et finalement on oublie qu'on est là pour imprégner le monde de notre vibration personnelle. C'est ce qui crée la fabuleuse harmonique dans laquelle on est. Et on oublie. Et du coup, on voit que le collectif joue une certaine orchestration. Et on se dit, bon, ben, pour être accepté, vu qu'on n'a pas développé l'estime de nous-mêmes, l'amour de nous-mêmes, bon, ben, on se dit qu'on ne fait pas le poids face à l'orchestre collectif. Bon, ben, on prend un triangle, on prend un trombone et on se met à jouer avec l'orchestre, avec la collectivité, quoi. Quand bien même ils jouent faux, on va se mettre à jouer faux, mais ensemble. Et c'est là où le travail, voilà, où le développement personnel, où la quête spirituelle, où le parcours initiatique a un vrai rôle à jouer, c'est que étape par étape, on va redécouvrir notre vibration propre, notre mélodie intime et personnelle. On va l'écouter, on va se la réapproprier, puis on va se dire « Hey, je peux jouer aussi avec le collectif, en revanche, je joue ma propre partition ». Mon instrument personnel, mon instrument divin, je me le suis réapproprié et je peux jouer à nouveau. Et j'ai lu il y a quelque temps une phrase qui m'a beaucoup fait réfléchir, c'est « Lorsqu'on te coupe de ta mémoire, on te coupe de ton pouvoir ». Et ça a vibré très très fort en moi. Que ça soit notre histoire personnelle, que ça soit notre histoire collective, que ça soit l'évolution de toutes les civilisations qui ont peuplé la Terre, qui sont apparues et qui ont disparu. Il y a clairement quelque chose qui n'est pas net dans la façon dont on nous transmet la connaissance et l'histoire de toutes ces civilisations, que ce soit les Sumériens, les Égyptiens, les Mayas, les Incas. Il y a un truc qui est clairement pas net, qui fait partie de notre histoire collective et personnelle en tant que civilisation. On est dépossédé quelque part de cette histoire-là. On nous a coupé, en fait, de ce lien-là. Et on l'a remplacé par d'autres théories, que ce soit Darwin. Il y a une volonté de nous couper de notre mémoire, notre vraie mémoire ancestrale, culturelle. Et nous déposséder de cette mémoire-là, c'est nous déposséder de notre pouvoir, en tant qu'humain lié au divin. Parce que j'ai l'impression que ces civilisations-là étaient bel et bien connectées à la divinité en eux-mêmes. Ils nous ont laissé des indices, ils nous ont laissé des traces, mais il y a plein de choses qui nous ont été volées. Il y a des bibliothèques entières qui ont été brûlées, avec des connaissances incroyables, avec des transmissions qui faisaient partie de notre mémoire, qui nous ont été retirées, qui ont été volontairement détruites pour nous couper de notre réalité. C'est une énorme injustice, hein, sur le plan personnel, sur l'évolution de l'humanité, sur l'évolution des consciences. C'est une entrave dont on n'a même pas conscience. C'est des choses qui nous dépassent. Et on sait qu'on nous a dépossédé de choses très puissantes, de choses très précieuses. On le sent en nous-mêmes. On sait qu'on est plus... qu'on est beaucoup plus que des humains relégués à la condition d'esclaves, parce que c'est ce qu'on est, en fait. Ici, là, dans ce monde de troisième dimension, nous sommes des esclaves. Nous sommes dirigés par des psychopathes qui nous font croire que notre asservissement est justifié parce qu'on a une carte vitale. Mais tout ça, c'est du bullshit, hein. On s'est laissé ensorceler, on s'est laissé hypnotiser. Parce qu'on a vu qu'autour de nous, tout le monde agissait comme ça, parce que tout le monde réagit et est capable de faire des choses totalement absurdes quand ils sont dirigés par de la peur, par de la tristesse, par de la colère. Les gens font nimpe, mais nimpe, c'est un truc de ouf. C'est vraiment les curseurs, si tu veux que toute une population ait des réactions et fasse des choix irraisonnés et totalement absurdes, insuffle de la peur. La carte vitale, c'est quoi? C'est la peur de la maladie et de la mort. Et en même temps, on vit dans une société consumériste où on est déconnecté du vivant. Rien n'a de sens. On vit dans un monde qui est monté à l'envers. Tu prends n'importe quel segment de notre vie, de notre société. On va prendre, par exemple, le suivi d'une grossesse et l'accouchement. Mais c'est une hérésie. Dans aucune civilisation du passé, les femmes accouchent comme des tortues sur le dos, shootées avec des substances hautement toxiques pour son propre organisme et celui de son enfant prêt à naître. Enfin, l'accouchement, organiquement, c'est un dialogue entre le bébé et la mère, et les deux fonctionnent en fusion l'un avec l'autre. Enfin, l'accouchement, c'est comme si une femme pondait un œuf. Est-ce que vous avez déjà vu une poule accoucher les deux, enfin lâcher son œuf les deux pattes en l'air sur le dos? Mais non, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Vous prenez, mais vraiment, hein, n'importe quel segment de notre civilisation, c'est n'importe quoi. L'organisation d'une pseudo-démocratie dans laquelle on évolue, mais c'est nimp. C'est absurde, on vit dans un monde où tout est monté à l'envers, et le capter, le comprendre, c'est un peu la douche froide, hein. C'est très très particulier. On est là en tant que particule du divin incarnée dans un corps physique. Notre âme a choisi de mettre ce costume d'humain pour, je le pense, hein, c'est ma vision personnelle, pour un but très particulier qui est celui d'éclairer, d'apaiser et d'apporter de l'amour là où il y a de la peur. C'est ça, d'apporter de l'amour là où il y a de la peur. Je suis sortie de ma zone de confort, clairement, moi qui vis un petit peu comme une ermite depuis pas mal de mois. J'ai été invitée à passer 4 jours dans un lieu que je ne connais pas, invitée par quelqu'un d'extraordinaire avec qui j'échange de temps en temps sur Instagram. Et donc, j'ai été invitée à passer 4 jours avec une quinzaine de personnes que je ne connais pas, dans un lieu que j'ignore, dans un coin de la France que je ne connais absolument pas, et j'y suis allée. Et c'était assez cool de se dire, bon bah allez, on va accueillir ce qui va se présenter, on va découvrir de nouvelles personnes que je n'aurais certainement pas rencontrées sans l'intermédiaire de notre hôte qui nous a reçus chez lui à la campagne. Et c'était assez cool, et j'ai envie de vous parler d'un personnage que j'ai découvert pendant ce week-end. Il s'appelle Baba et j'ai adoré sa vibe. Il m'a énormément inspirée pendant ce week-end-là. Toutes les personnes présentes m'ont inspirée, mais Baba, je le conceptualise comme l'homme amour du futur. Je vais vous expliquer pourquoi. Baba est incroyable. Baba a un monastère dans lequel il enseigne la permaculture du côté d'Albi. Il se fait appeler un rastamoine. C'est un rastamoine, je trouve la formule géniale. Quand il enseigne la permaculture, il appelle ça la thérapie. Et je l'aime beaucoup parce que pour moi, c'est un peu un lutin de la nature, Baba. Il a son ukulélé, il voyage dans son camping-car tout aménagé. C'est un esprit libre, c'est un esprit plein de joie, d'amusement. Tous les soirs, on faisait des feux de camp et il prenait son ukulélé et on chantait des chansons tous ensemble. Et moi, ce qui m'a vraiment, vraiment fait triper, c'est que Baba vit en slip. J'ai pris plein de vidéos de ce week-end-là. Il y a des moments où tu vois Baba traverser l'écran ou jouer au foot ou jongler ou jouer du ukulélé en slip. Et j'ai adoré parce que ils étaient trois à me raccompagner à la gare quand je devais rentrer, du coup, prendre mon vol pour Barcelone. Je devais d'abord prendre le train jusqu'à Bordeaux. Et Baba m'a accompagnée en slip, pieds nus. Et donc, moi, quand il m'accompagne en slip, pieds nus, on est dans le van, il m'accompagne à la gare, je me dis, Baba ne va pas sortir du van, en fait. Il est là, il a la cool, mais il va rester dans le van. Et on sort du van, il m'accompagne, on traverse les rails pour se mettre sur le bon quai, et Baba est pieds nus, en slip. Et je lui dis, je regarde, je lui dis, Baba, t'es en slip à la gare. Et là, il se penche vers mon oreille et il me dit, moi, je suis là que pour m'amuser. Et j'ai trouvé cette phrase tellement lumineuse. Parfois, on entend des phrases qui nous libèrent, qui nous allègent le cœur. Et je me suis dit, mais oui. T'as raison, en fait. T'es là. T'es juste là pour t'amuser, pour distiller de la joie, de la bonne humeur, de l'amour pur. Et ça fait du bien. Et j'étais tellement heureuse de croiser la route de Baba. Je pense que bientôt, je vais aller passer quelques jours dans son monastère du côté d'Albi. Parce que j'ai vraiment envie d'en savoir un petit peu plus sur son monde, sur la dimension dans laquelle il vit. Et je suis persuadée que Baba incarne l'homme amour du futur, comme il y aura aussi bientôt le concept de la femme amour du futur. Je vois Baba comme un chaman qui distille sa thérapie. Et pourquoi pas l'interviewer bientôt. Dites-moi si vous avez envie que j'interviewe Baba. J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi va pas pousser? Moi, j'ai... expérience personnelle que j'ai aussi envie de partager avec toi. Tu vas voir, ça peut paraître assez superficiel, mais en réalité, c'est hyper deep. Je me suis lancée dans une transition capillaire. Je t'explique. Depuis que j'ai l'âge de 4 ans, tous les dimanches, ma mère me faisait des brushings en fait. J'ai les cheveux naturellement bouclés et ma mère considère que les cheveux bouclés, c'est ne pas être coiffé. Donc, depuis mes 4 ans, tous les dimanches, c'était on lave les cheveux et on fait un brushing. Et ça m'a vachement formatée, c'est-à-dire que devenant adolescente, jeune adulte et adulte, ben, j'ai poursuivi cette grande programmation capillaire qui était de lisser mes cheveux. J'ai fait des lissages chimiques, des lissages brésiliens, lissages japonais, soins à la kératine. Bref, tout ce qu'il était possible d'expérimenter pour lisser mes boucles, pour changer l'ADN, la fibre, la texture naturelle et originelle de mon cheveu, eh ben je l'ai fait en réalité. Et à plusieurs reprises dans ma vie, mais vraiment c'est assez récurrent, ça vient par cycle à peu près tous les 2-3 ans, je ressens ce besoin, cette envie un peu sauvage, primale, de retrouver ma texture d'origine, vraiment la Amel originelle. Telle qu'elle est arrivée sur Terre, avec sa crinière, avec ses boucles, avec cette ondulation. Et finalement, en observant un peu ces ondulations-là, je me rends compte que c'est de l'énergie, en fait. C'est une espèce de spirale énergique qui passe du sommet de ta tête, de ton chakra coronal, et qui texture tes cheveux d'une certaine façon, en fait, sous forme de spirale énergétique. Et pendant tant de temps, depuis si longtemps, je refuse l'expression originelle de mon cheveu. Je refuse finalement l'énergie qui émane de ma fibre capillaire, quoi. Et dans le travail de l'acceptation de soi, de l'amour que l'on a pour soi-même, je me rends compte que le cheveu, il symbolise finalement quelque chose de très très puissant. Sur mes origines, mon arabité, voilà, j'ai des cheveux qui sont comme ça. Certes, je suis née en France, j'ai vécu en France, mais mes cheveux ont une histoire, ont une mémoire qui me représente moi-même et qui représente aussi ma lignée de femme, et qu'il est grand temps d'accepter l'histoire, la mémoire, la force de mes cheveux, quoi, de ma propre texture capillaire. Donc je réalise une transition capillaire, je suis en train de me documenter. Beaucoup de femmes dans mon entourage l'ont fait, donc m'ont conseillé des produits, des façons de faire, d'attendre, d'avoir beaucoup de patience, d'accepter pendant pas mal de temps de ne pas être coiffée. Là, je suis en train de faire le geste avec mes doigts, genre les guillemets, de ne pas être coiffée, d'être décoiffée en fait, socialement, d'avoir des espèces d'antennes, boum, qui pop-up comme ça, d'avoir peut-être un côté qui va plus onduler qu'un autre. Voilà, accepter l'approximation, d'accepter la perte de contrôle capillaire, mais aussi la perte de contrôle de l'image que l'on projette. Se dire, ok, je vais arriver, peut-être un jour, je serai tel un soleil, avec plein de petites antennes comme ça, et alors, c'est moi-même, je suis comme ça. Et il y a un vrai truc, je pense que je vais prendre le temps d'écrire autour de cette transition capillaire qui appelle beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, qui fait résonner plein de choses en moi, sur mon éducation, sur cette volonté, où finalement, ma mère m'a vu débarquer tel un soleil avec ses ondulations là, avec ses cheveux qui prenaient beaucoup trop de place, qui s'imposaient, on ne voyait plus que ça. Et quelque part, elle a voulu me protéger en fait. En lissant mes cheveux, elle a voulu me lisser ma personnalité, lisser ce que je représentais face au monde, lisser comment je me présentais dans la société. Dans cette école, j'étais dans des écoles cathos, et donc souvent j'étais la seule rebeu hein, de mes classes, pendant le collège, pendant le primaire, pendant le collège, pendant le lycée, j'étais souvent la seule rebeu de ma classe en fait. Hein. Et donc cette volonté de me conformer, cette volonté quelque part de me dissoudre dans le tout, voilà, dans ce pays, dans ce système, dans cette éducation, où elle n'avait pas envie que je me sente différente. Et parfois, à trop vouloir l'intégration, on atteint la désintégration. On s'éloigne de soi-même, on rejette une partie de soi-même. Pendant des années et des années. Et là, j'ai envie, naturellement, de revenir aux sources, de revenir à la source de mon être-té, de la Amel originelle. Pendant toute mon enfance, ma mère a voulu me protéger de la façon qui était la plus juste pour elle à l'instant où elle le faisait. Mais aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'être protégée. Je n'ai plus peur de rayonner ce que je suis. Je suis prête à accepter ma crinière de lion.
Spiritualista.
Ah, ça me fait penser à un truc. Aïe, 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 il faut que je vous en parle. Sur TikTok, quand je parle d'incarner la divinité en soi et d'assumer d'être un roi, d'être une reine, d'être un prophète et d'être une prophétesse, à partir du moment où on diffuse des messages lumineux, des messages d'amour, de joie, de cohésion, d'unité, de l'accepter. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont commenté sur TikTok en me disant que j'étais orgueilleuse. Et j'ai fait un autre TikTok pour expliquer que finalement, il ne faut pas confondre intelligence et orgueil. Et il faut assumer son statut à un moment donné. Quand on est aligné, quand on est droit dans ses bottes, quand on assume sa divinité intérieure, on n'a plus peur de l'exprimer. Parce qu'on a conscience que ce qu'on exprime, c'est juste, c'est syntonisé, c'est en accord avec des règles élémentaires de spiritualité. Et il n'y a pas d'orgueil là-dedans, parce que l'orgueil, c'est l'attribut de l'ego, du mental. Et quand on commence à ascensionner, à se libérer de pas mal de carcans, avoir fait un travail intérieur. C'est pas facile, hein, ça prend des années, c'est laborieux. Vous-même, vous savez, voilà, les stades par lesquels on passe, et que c'est pas auréolé que de béatitude, on n'est pas Bouddha au sommet de sa montagne. J'ai une amie qui m'a dit ça récemment et ça m'a fait sourire. Mais pas du tout. C'est un struggle, c'est une lutte acharnée contre soi-même. C'est pas simple, quoi. et donc c'est cette idée de se dire l'orgueil, c'est un attribut qu'on laisse tomber à un moment donné, en fait. Et on est même amusé quand on capte que chez certaines personnes, cette fibre-là est encore présente. On ne les juge pas, on accepte. On tolère l'autre tel qu'il est. Donc, on n'a pas peur. Et si on nous juge d'orgueilleux ou d'orgueilleuse, on explique très sereinement que c'est le divin en nous qui s'exprime et qu'il n'y a pas d'ego là-dedans.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Et il y a une phrase que j'adore, c'est une phrase qui a été lâchée par mon futur invité, qui sera le dernier invité de la saison 2 de Spiritualista. Il y a une phrase qu'il utilise souvent, que j'adore, c'est « ce n'est pas nous qui aimons, mais c'est le divin en nous qui aime ». Et c'est à chaque fois quand on est challengé là, dans la vie, quand c'est difficile, quand on est face à des gens qui, de prime abord, ne sont pas très aimables, hein, ne nous montrent pas forcément leur divinité intérieure, quand nous, on doit aller puiser, aller chercher loin cette capacité d'amour qui est toujours là. Et finalement, c'est le divin en nous qui pardonne, c'est le divin en nous qui aime, c'est le divin en nous qui s'exprime au travers de la lumière. Et ça, c'est chouette finalement, parce qu'on se rend compte que nous, on est, on devient au service, on est au service du divin. Moi, ça fait des années que j'ai laissé les manettes. J'ai dit, bon, allez, je suis au service. Je me mets au service. Je me soumets à l'autorité du divin en moi. Et plus celui de mon égo mental qui est stratégique, qui essaie de calculer, qui a peur du manque. Qui... Ça y est, à un moment donné, moi, j'ai été saoulée par ça et je me suis dit, allez, go. Je laisse mon avatar au grand programmateur et je lui laisse me dessiner le meilleur des scénarios parce que j'ai confiance et je me mets au service. Et donc quand on choisit de se mettre au service comme ça, à pas compter les heures, à se dire... Sincèrement, ce que je fais, il y a des matins où je me réveille, je me dis mais... Genre à quel moment ma vie a pris ce tournant-là où... Je communique autour du divin, je fais des partages, j'essaie d'utiliser les codes de l'époque dans laquelle on vit, hein, la modernité absolue, Instagram, TikTok, le format podcast, les e-books, les choses comme ça, pour diffuser finalement un message qui est hors du temps et de l'espace, qui a toujours été et qui sera toujours. Et moi, je suis juste là, un petit tiret transmetteur. On est des millions hein, à propager les choses à notre façon. Et il y en aura de plus en plus. Et c'est cool, en fait. Donc voilà, je ne sais pas à quel moment il y a eu ce glissement. Je pense que c'est à partir du moment où je me suis lancée dans l'expérience de partage spiritualista. Voilà, quand j'ai commencé à créer... ce mode de communication, d'une façon hyper spontanée et naturelle, c'était juste cette envie de partager, de me dire « Non mais ça fait des années que je geek ce sujet-là, qui m'apporte tellement dans ma vie, qui me permet de m'émanciper, de comprendre le monde dans lequel on vit, de me comprendre moi-même, d'évoluer dans ma vie et d'être apaisée. » Je suis sûre qu'il y a plein de personnes que ça peut aussi intéresser. Mais qui n'ont pas forcément le temps ou l'argent ou la disponibilité de s'y intéresser et de creuser. Donc je vais créer des capsules plus ou moins longues, interviewer des gens aussi qui ont eux-mêmes engrammé énormément de connaissances et d'expériences sur ces sujets-là. Et comme des clés USB chargées, je vais les diffuser sur plein de plateformes différentes. Et je pense que c'est au moment où j'ai envoyé cette impulsion que finalement j'ai mis à profit mon corps de volonté, hein, que les choses se sont alignées naturellement et où finalement j'ai l'impression d'être, en fait, de pas vraiment contrôler les choses et en même temps tout ce qui se présente est parfait. Voilà, je suis au bon endroit, je ressens les bonnes énergies, je tout roule quoi. Tout roule. Donc, j'ai énormément de gratitude pour tout ça. Je ne sais pas pourquoi je vous disais tout ça. Oui, c'était par rapport à notre être-té, notre lumière. Quand elle est exprimée au monde, ça peut être interprété comme de l'orgueil. C'était juste pour vous rassurer, pour vous dire, ne croyez pas ces attaques-là. C'est des flashs illusionnels, faussement égotiques qu'on vous renvoie pour que vous retourniez dans votre petite coquille, voilà, que vous n'osiez pas briller votre lumière dans ce monde foncièrement pas très lumineux, hein, pour pas dire autre chose.
Spiritualista. Hello Amel, j'espère que tu vas bien. Ça fait un petit moment maintenant que je te suis et j'ai cette question que je me pose. Bon, c'est assez indiscret, tu n'es pas obligé d'y répondre. Étant donné tes origines, j'imagine que tu as grandi dans une famille de confession musulmane. Si c'est le cas, je me demande si aujourd'hui tu te considères toujours comme telle. Je te demande cela car je me suis reconvertie étant plus jeune et je t'avoue que j'ai été déçue de la Oumma et de la pratique des sœurs et des frères que j'ai pu rencontrer. Du coup, je me suis jamais sentie légitime de dire « je suis musulmane ». Aujourd'hui, je me reconnais plus dans le soufisme et je suis ouverte à tous les champs spirituels, à l'ésotérisme, etc. J'ai très envie d'essayer l'ayahuasca par exemple. Je suis clairement sur mon chemin spirituel et je me demande si vraiment on a besoin de se coller une étiquette ou tout simplement je suis spirituelle et non religieuse.
Merci Sophia pour ce message très complet. Merci d'avoir pris le temps de me poser toutes ces questions. Je vous avoue qu'en 2 ans de podcast, des questions en rapport avec ma religion de naissance, l'islam, j'en ai eu beaucoup parce que j'ai conscience que ça dénote qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes femmes de ma communauté qui prennent la parole et qui sont si libérées à aborder des thèmes autour de l'ésotérisme, la spiritualité. J'ai vraiment l'impression au travers de mes partages de libérer beaucoup la parole autour de ces sujets-là, surtout par le prisme voilà, des femmes issues de la communauté musulmane qui ressentent et qui vivent les choses aussi comme moi, mais qui souvent n'osent pas explorer, se donner la liberté de lire certains livres, de passer par certaines pratiques, parce qu'elles sont considérées péchées dans la religion, hein, tout simplement. L'ésotérisme est totalement interdit dans les religions monothéistes, de toute façon. Je sais que je suis pionnière dans la libération de la parole autour de ces sujets. Et donc là, je vais prendre le temps de répondre au travers du message de Sophia à tous les messages que j'ai reçus concernant justement le rapport que j'ai pu avoir avec mes parents, avec ma famille, avec mes proches quand je suis sortie du rang. Alors, je reprends ton message. Étant donné tes origines, j'imagine que tu as grandi dans une famille de confession musulmane. C'est exact. Mes parents, ma famille est musulmane. Ils sont plus ou moins pratiquants, on va dire. C'est surtout le fait de ne pas manger de porc et de respecter le mois du Ramadan. Voilà, on va dire que c'était les deux grands totems qui relient mes parents aux religieux, enfin ma famille aux religieux. Après, les tantes, il y a des tantes qui sont voilées, qui sont plus rigoristes. Voilà, on va dire qu'il y a un prisme qui va de l'islam cool à un islam plus dogmatique. Ce qui a été une sorte de game changer pour moi dans la vision que j'avais de la religion, c'est en fait que j'ai réalisé un mariage religieux. Je me suis mariée. Bon, c'est des fiançailles hein, aux yeux de la République française, mais aux yeux de l'islam, c'est considéré comme un mariage. Et je suis restée mariée quelques semaines seulement parce qu'en fait, j'ai compris que je me mariais pour les mauvaises raisons, en fait. Je me mariais pour faire plaisir à mes parents. J'avais choisi un homme musulman pour pouvoir coller à plein de choses, cocher plein de cases. Et finalement, l'esprit libre que j'étais déjà à l'époque, mais que je laissais en sommeil, ne pouvait pas rentrer dans ce carcan, en fait. C'était pas possible. Je ne pouvais pas m'épanouir dans ce modèle-là d'union. Et donc, en fait, quand j'ai décidé, du coup, de mettre fin à cette union, ensuite, j'ai eu un élan, mais de liberté incroyable qui m'a traversée. Je me suis autorisée à lire plein de livres sur le féminin sacré, sur la magie, sur l'ésotérisme, sur les arts divinatoires. Je me suis acheté mon premier tarot. Bref, je me suis rendu compte que j'étais totalement boulimique et que c'était une partie de moi, en fait, que je gardais à distance et il était temps pour moi de l'explorer, de l'embrasser et de faire corps avec tout ça. Et il y a un truc hyper incroyable, c'est que ma mère, déjà dans les années 80, donc on est bien avant Internet, dans la bibliothèque de ma mère, il y avait des livres autour de la numérologie, de l'astrologie. Il y avait un livre, je me rappelle, je m'amusais à dire le mot sur les maladies psychosomatiques. J'aimais bien dire ce mot. Et donc voilà, ma mère avait déjà cette approche-là. Elle nous a fait nos thèmes de naissance à ma sœur et à moi et tout. Et en me rapprochant petit à petit, voilà, de tout ce champ d'exploration, j'ai posé la question à ma mère et je lui avais demandé, mais maman, avant Internet, avant tous ces effets de mode, tu étais déjà intéressée naturellement par ces sujets. Ils sont où ces livres? Pourquoi tu t'es coupée de ça à un moment donné? Et elle m'a dit, écoute, quand on est allé s'installer au Maroc, parce qu'on a vécu au Maroc quand j'avais entre 7 ans et 9 ans, les nièces de ton père m'ont dit que c'était haram, voilà, que c'était sortir de la religion que de s'intéresser à ces sujets-là. Et donc, du coup, ma mère s'est fermée. C'est un peu comme si elle a coupé son canal. Elle a coupé son canal d'exploration, en fait. Elle s'est interdite, ce qui était pourtant quelque chose qui l'animait hyper fortement. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, vu que ma mère s'intéressait déjà à ces sujets-là et qu'elle a fermé... son intérêt pour ne pas être rejeté par sa belle famille, quelque part, hein. Et c'est souvent comme ça, c'est toujours le jugement des autres sur ce que tu fais qui te coupe de tes intérêts premiers, en fait. Et c'est souvent ta zone, ce qu'on appelle ta zone de génie, ta zone de talent, là où tu t'éclates. Moi, quand j'ai commencé de mon côté à m'intéresser à tous ces sujets-là, ma mère, pour elle, c'était au contraire, elle me posait des questions, elle m'apprenait des trucs, c'était assez naturel. En ce qui concerne mon père, parfois, il trouve que je vais trop loin dans mes raisonnements. Par exemple, quand je lui dis qu'on est entier, on est complet, lui, il a tendance à me dire « Non, il n'y a que Dieu qui est complet. On est des bouts d'âme. » Je ne sais pas quelle vision il a, mais moi, à chaque fois, je lui dis « Je n'ai pas besoin d'avoir un homme dans ma vie pour être complète. Je suis complète. Et si je rencontre un autre homme qui est complet, oui, ça pourra le faire, en fait. » Et donc, voilà. Bon, on ne s'entend pas sur tout, mais en tout cas, il respecte mon point de vue. Ce qui s'est passé, moi, à un moment donné, c'est-à-dire que pendant toutes les années où j'étais étudiante et tout ça, où j'habitais seule, clairement, le ramadan, je faisais un petit peu à la carte, hein, on va pas se mentir. Mais en revanche, je mentais à mes parents, quoi. Je leur faisais croire que je le faisais nickel, même si je pense qu'ils devaient se douter que j'étais à la cool. Mais ce qui s'est passé, c'est il y a 6 ans, j'ai vraiment réalisé mon coming out... je sors du religieux et j'incarne ma propre spiritualité. Je me rappelle, c'était 2 jours avant le début du ramadan. J'ai appelé ma mère et je lui ai dit, écoute maman, je voulais vous dire que cette année je vais pas le faire, en fait, et que c'est mon choix et c'est comme ça. Et là ma mère m'a dit, mais écoute ma fille, t'es assez grande, tu fais bien ce que tu veux. Elle en avait rien, elle s'en foutait, quoi. Donc voilà, après j'ai souvent des réactions de certaines cousines qui, quand elles ont vu que je commençais à m'intéresser à la lithothérapie, au pouvoir des pierres, des choses comme ça, m'envoyaient des messages en me disant que je sortais de la religion, des choses. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens tentent toujours de nous intimider ou de nous faire ce qu'ils appellent des rappels. Voilà, parce que dans la religion musulmane, le croyant a le droit de faire un rappel. À quelqu'un qui sort du dogme ou qui peut-être par ignorance ne sait pas que ce qu'il fait, c'est pas carré, bref. Très rapidement, je disais non merci, ça m'intéresse pas, et j'ai vraiment envie d'explorer mon propre chemin, et les gens le comprenaient. Et donc voilà, après je dis pas hein, que bon, c'est sûr que ça doit un petit peu jacter sur mes côtelettes, mais il y a pas de souci. En tout cas, on vient pas me le dire frontalement. Voilà, Sophia, pour t'expliquer un petit peu rapidement comment ça s'est passé, moi, au sein de ma famille. On va dire que ça a été globalement accepté, mais aussi parce que j'ai un sacré caractère, j'ai toujours imposé mes envies, mes visions. Et plus le temps passe, plus je suis connectée vraiment à ma puissance du dragon. C'est-à-dire que je suis à la fois... hyper apaisée et sereine, et j'ai à la fois une force qui grandit en simultané en moi, qui ne laisse pas de choix aux gens. Voilà. Ensuite, Sophia, tu m'expliquais que toi, tu as été convertie plus jeune et que tu avais été assez déçue de la Oumma. La Oumma, c'est le collectif des musulmans et musulmanes. Voilà, ça crée un collectif, un égrégore collectif qu'on appelle la Oumma. La pratique des sœurs et des frères que tu as pu rencontrer, évidemment, parce que c'est pas parce que les gens sont labellisés religieux, catho, chrétiens ou musulmans, qui sont au clair avec beaucoup de choses dans leur vie, et qu'il y a aussi l'aspect de l'éducation, de l'ouverture, de l'expansion de conscience. Moi, je pars du principe qu'on vit son expansion de conscience en explorant, en faisant des erreurs, en avançant par soi-même. Parce qu'en fait, on est des âmes incarnées sur Terre et on n'est pas tous venus là pour expérimenter les mêmes choses. Donc, quand tu me donnes un menu avec des piliers, des choses à faire, à pas faire et tout ça, oui, ça se trouve, il y a une partie de la population qui adore être drivée. Voilà. Il y a des personnes, elles sont incapables de s'autogérer dans la vie. Voilà, il y a des gens, la vie les effraie, ils sont pas à l'aise avec leur expérimentation, ils ont besoin d'avoir ce qu'on appelle des guidelines, des choses à faire à des moments très précis de la journée pour vivre. Voilà, pour vivre, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai une formule que j'utilise souvent et je dis les religions sont les petites roulettes du vélo qu'est la spiritualité. Et qu'à un moment donné, on arrive à faire du vélo sans petites roulettes, donc c'est cool. Moi, je sais que passer par la case du religieux, ça m'a permis d'être connectée à ma spiritualité, au divin, parce que voilà, forcément... T'as des notions, tu vois, de monde subtil, de le fait de prier, d'avoir une certaine discipline dans tes actions. C'est hyper, hyper bénéfique, c'est hyper intéressant, en fait. Et c'est beau, il y a aussi la vibration des versets coraniques, qui sont un peu... c'est un peu comme de la sonothérapie, c'est des fréquences qui t'entraînent, qui t'élèvent, qui font léviter ton âme, en fait. Donc ça, c'est des aspects qui sont intéressants. C'est pas parce qu'on passe par le religieux. Moi, je vois vraiment les choses hein, comme des étapes, comme dans un jeu vidéo. On passe par des paliers, mais on ne reste pas bloqué au même palier parce qu'on refuse son évolution, son élévation d'âme si... pendant toute ta vie, tu vois, tu vas respecter des dogmes et que tu vas jamais en sortir... Et souvent, vous savez, moi, j'adore parler de l'échelle des émotions de David Hawkins. Et j'ai remarqué, tu en parlais, Sophia, de la Umma. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'au sein de cette Umma, il y a énormément la fréquence de la culpabilité, de la peur, de craindre Dieu. Cette crainte-là, pour moi, elle me dépasse, en fait. À aucun moment, je dois ressentir dans mon cœur la vibration de la peur, d'une hypothétique colère d'un dieu égotique. Mais pour moi, c'est insensé. Enfin, si on place Dieu au-dessus de tout, comme le grand architecte du grand tout, l'immensité, la conscience immense du tout cosmique... il ne peut pas avoir d'attribut de la personnalité du petit égo humain. C'est pour moi, ça n'a pas de sens. Donc, c'est un non-sens de craindre Dieu. Après, on va me dire, oui, mais c'est respecter Dieu. Mais c'est pareil, en fait. Il n'a pas besoin de... Dieu n'attend pas qu'on le respecte. Il attend qu'on soit l'incarnation du divin sur Terre. C'est-à-dire que nos paroles, nos actions, nos pensées soient animées de lumière, d'amour et de joie. C'est tout, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses. Bon, je poursuis ton message, sinon, tu sais, hein, moi si je suis partie sur ce sujet, c'est tellement, tellement deep et je sais que ça va toucher beaucoup de gens. Tu me disais, du coup, je me sentais pas légitime à dire je suis musulmane, ok. Aujourd'hui, mais ça aussi, c'est particulier, c'est se couper du tout, en fait. Je suis... musulmane, c'est-à-dire que déjà on se catégorise, on se limite, on se sépare de l'autre, on se coupe de l'autre en fait. C'est genre déjà à la base, je me labellise d'une certaine façon, donc je me sépare du reste de la communauté des humains sur Terre. Ça aussi c'est pas du tout 5D hein, la religion, hein, parce que tout ce qui sépare, c'est de la 3D. Aujourd'hui, je me reconnais plus dans le soufisme et je me suis ouvert à des champs spirituels, à l'ésotérisme, etc. C'est intéressant. Le soufisme, il faut savoir que dans toutes les religions monothéistes, il existe une catégorie des textes sacrés qui explorent les champs subtils, l'ésotérisme, disons, qui sont destinés à des personnes plus sensible à la poésie et certainement plus érudite. Et le soufisme, c'est la partie des textes en islam qui touche les champs ésotériques. Il me semble que chez les chrétiens, c'est la gnose. Dans les textes juifs, la version ésotérique, c'est la kabbale. On trouve toujours une partie des textes sacrés destinée à une partie de la population, disons, qui a un champ de conscience un petit peu plus grand, voilà, plus élargi, plus tolérant, plus éveillé aussi, peut-être. Donc, mais je comprends. Et Sophia, j'ai envie de te dire, explore plein de choses. Si tu veux passer 6 mois à être dans le bouddhisme, à lire, à faire des stages, à aller explorer des choses, mais on est sur Terre pour ça. On est sur Terre pour expérimenter, pour voir où est notre vibration la plus juste. Et comme je t'ai dit, c'est des paliers. Ce que je trouve hyper limitant, en fait, chez les personnes dogmatiques, c'est qu'elles ont une pièce du puzzle, que ce soit le Coran, la Bible ou d'autres textes. Elles ont une pièce du puzzle et elles pensent que cette pièce du puzzle, c'est l'entièreté du puzzle. Ils pensent que juste cette pièce-là, c'est le tout, alors que ça représente qu'une pièce du puzzle. Et que la connaissance initiatique, sacrée, elle est dans des milliers, voire des millions de pièces de puzzle, en fait. Et l'idée, c'est un peu comme des petites pièces d'or quand on est dans Mario Kart, c'est voilà, d'en engranger un maximum pour avoir la vision la plus grande, la plus juste. Il y a plein de choses qui se corrèlent, qui se répondent. On retrouve les mêmes notions, mais avec des symbolismes et des images différentes. Et c'est magnifique et c'est beau, en fait, de se connecter à cette espèce de trame, cette colonne vertébrale d'enseignement qui a forcément un lien et qui est immuable, qui est hors du temps, hors de l'espace, qui est connecté à toutes les civilisations. C'est ça qui est beau, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, Sophia, n'hésite pas à explorer. Tu me dis aussi dans ton texte que tu as envie d'essayer l'ayahuasca. Écoute ton cœur, vois ce qui t'appelle, de quelle façon tu as envie de le faire, à quel moment tu as envie de le faire. Tu es libre. C'est ça le plus important, c'est de se dire, de ne pas douter de ça. Tu es libre de faire tout ce que tu veux à l'instant où tu le souhaites. Et personne ne peut te juger pour ça. T'es pas là pour plaire, t'es pas là pour être en accord, t'es là pour faire ce que tu veux, quand tu le veux, comme tu le souhaites. Donc voilà, Sophia, j'espère que j'ai pu répondre à tes interrogations de la meilleure des façons. En tout cas, je l'ai fait avec une transparence absolue. Et voilà. Et toi aussi, si tu m'écoutes et que tu as des questions, n'hésite pas. Ce que j'aime bien comme format, c'est le format moins d'une minute en audio sur Instagram. Je les récupère et ensuite, voilà, je les diffuse et je te réponds. Je t'embrasse fort, Sophia. Donc voilà, c'est les choses que j'avais envie de partager avec toi dans cet épisode 44. Sache que dorénavant, je suis présente du coup sur TikTok. Le compte, c'est Amel Spiritualista. J'ai lancé depuis vendredi dernier, j'ai envie de développer ma newsletter, la Spiritual Letter. Tous les vendredis, si tu as envie de recevoir ma newsletter, mon message du cœur, je t'invite à me laisser ton mail sur mon compte spiritualista.fr. Tu verras, dès que tu arrives sur spiritualista.fr, il y a un pop-up. Tu renseignes ton mail à ce moment-là. Ou sinon, si tu n'as pas le pop-up, tu verras en bas de la page. Tu peux aussi remplir les quelques champs usuels pour recevoir ma newsletter. Ah oui, autre nouveauté, j'ai lancé le shop Spiritualista avec des quotes, des citations qui me sont chères, que je garde depuis pas mal de temps, que j'avais envie d'exprimer sur des objets matériels. Tu vas pouvoir trouver des citations 100% dans l'esprit spiritualista sur le spiritualista.shop. Tu vois, il y a des t-shirts, il y a des sweats, il y a plein de choses très très rigolotes pour toi. Et toujours inspiré par l'esprit divin. Voilà. Il y a des t-shirts avec écrit divin, divine. J'ai hâte de voir vos photos avec ces créations qui vont faire bugger pas mal de personnes autour de vous, un peu comme un glitch dans la matrice. Voilà, ces moments où la personne lit le message sur ton t-shirt et wow. Et je pense qu'il y a pas mal de messages, en particulier your ego is not your amigo, ou j'avais pas envie de m'incarner mais tous mes amis sont ici, des trucs comme ça qui vont faire bugger pas mal de personnes autour de vous. Donc ça va être très amusant ce qui va se passer
avec les articles du Spiritualista Shop.
Voilà, c'est la fin de cet épisode 44. J'espère que t'en as eu pour ton argent. Il y a un truc que j'adore faire le printemps, l'été. J'adore m'inspirer du soleil. Je trouve que le soleil est un grand maître initiatique. Et finalement, je pense qu'il nous est simplement demandé d'incarner le soleil sur Terre. Le soleil, il brille de la même façon, à part égale, sur tout le monde. Il ne fait pas de tri sélectif, genre oh, « je vais briller sur toi, mais pas sur toi, parce que toi, tu ne le mérites pas ». Et moi, le soleil, il m'inspire beaucoup. Il m'inspire énormément. Il donne vie aux végétaux, il donne vie aux humains. C'est une puissance incroyable, le soleil. Alors, bah, devenons des soleils. C'est l'objectif de cet été. C'est de prendre l'énergie, d'engrammer, d'enregistrer l'énergie du soleil, d'exposer notre plexus solaire, notre petit soleil intérieur au grand soleil cosmique, et ensuite de diffuser nous aussi à notre manière notre rayonnement, notre chaleur du cœur. Je t'envoie tout mon amour, toute ma bienveillance, je te souhaite d'explorer, d'expérimenter plein de miracles dans ta vie, de recevoir plein de synchronicités qui vont te prouver que tu es sur le bon chemin, de rentrer en contact avec ta hiérarchie d'anges, avec ta divinité intérieure, avec ta super conscience, de chaque jour pouvoir rendre ce lien de plus en plus intime, pour finalement faire corps avec le divin en toi, pour te sentir à chaque instant empli de joie, d'amour, et te libérer, de couper petit à petit, voilà, les cordes qui te lient à des souvenirs mémoriels de peur, pour te permettre d'être et de vibrer pleinement, pleinement ton être-té. Et ne plus rougir, ne plus avoir honte de ta lumière. L'assumer et la diffuser. Et c'est ça qu'on adore. Je t'embrasse très très fort et je te dis à très bientôt, ici ou ailleurs.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.